Chers frères et sœurs, rassemblés dans cette cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, et vous tous qui nous rejoignez par les ondes de Radio Lapourdi ou par vidéo sur le site du diocèse de Bayonne. Nous entourons ce matin de toute notre ferveur et affection François-Régis Jeannot, Alexandre Méret et Baptiste Pochulu, au jour de leur ordination presbytérale. Merci à vous d'abord, chers parents, que je salue avec une respectueuse amitié, pour le don de vos fils, don que vous avez consenti au Seigneur pour le service de notre diocèse. Ils ont tous les trois une caractéristique commune. Bien qu'ils ne soient pas tous originaires du Pays basque, c'est d'avoir un vrai souci de s'enraciner dans le diocèse d'une manière générale, et en particulier dans cette partie basque du diocèse, son presbytérium et ses communautés. Même s'ils ont une vive conscience que l'Église est universelle avant d'être locale ou régionale. À Rome, en tout cas, pour deux d'entre eux, ils en font une belle expérience. Merci à tous les formateurs, aux curés des paroisses, aux communautés paroissiales qui les ont accompagnés durant toutes ces années. Je souhaite la bienvenue en particulier à l'abbé Vincent Sirette, qui est le recteur du séminaire pontifical français de Rome, où Baptiste accomplit sa formation depuis le début du second cycle et où François-Régis l'a rejoint depuis un an pour son année diaconale. Dans vos lettres de demande, vous m'avez dit les motivations profondes qui vous animent et que vous avez vérifiées tout au long de votre formation. Vous m'avez confié aussi la haute conscience que vous avez du ministère sacerdotal, en particulier en lien avec la célébration de l'Eucharistie, qui tient une place si importante dans votre vocation. François-Régis, tu m'écris qu'à l'adolescence, alors que tu étais tout juste baptisé, tu te disais « Un jour peut-être, je pourrai moi aussi célébrer la messe et rendre Jésus présent ». Quant à toi, Baptiste, ta vocation est très liée à l'expérience spirituelle de l'adoration eucharistique, en particulier depuis les JMJ de Madrid en 2011, une adoration mémorable après la tempête. Et tu as été saisi d'une émotion profonde la première fois que tu as vénéré l'autel à la fin de la célébration de ton ordination diaconale dans l'église de ton baptême à Cibourg. Alexandre, tu confesses ton grand désir d'aller jusqu'à l'autel du Seigneur. Et tu précises même, c'est tout un programme, jusqu'à la croix du Seigneur. En ce sens, la dernière question du dialogue, vous vous exprimerez dans quelques instants devant tous votre engagement, qui récapitule toutes les autres questions, est particulièrement significative. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain ? Nous atteignons là, frères et sœurs, pourrait-on dire, le cœur de l'identité sacerdotale. S'unir à Jésus comme prêtre et victime d'un sacrifice d'expiation pour le salut du genre humain. Il y a ici une expression déterminante. Vous consacrez à Dieu avec lui. Il ne s'agit pas seulement de se consacrer comme on se consacre à une activité dont on aurait l'initiative, mais d'être consacré, d'entrer dans la consécration même du Christ. D'ailleurs, vous répondrez « Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. » La prière d'ordination y fera écho. Par l'Esprit Saint, Jésus s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tâche. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité. Vous serez vous-même consacrés au plus intime de votre être par le don de l'Esprit Saint. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, ce que je dirai encore dans la prière d'ordination. Donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle foi au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté. Sans cette consécration décisive, en effet, vous ne pourriez pas assumer efficacement les charges qui vous seront confiées, la conduite du peuple de Dieu, le ministère de la parole, la célébration du mystère du Christ et la charge de la prière. C'est très important de le souligner, chers frères et sœurs. Le prêtre est un consacré. Je sais bien qu'à la faveur des scandales dont certains prêtres se rendent coupables, surtout quand c'est en abusant de leur pouvoir sacré, on a tôt fait de vouloir désacraliser le prêtre, comme des voix s'élèvent, y compris au sein de l'Église, pour le réclamer. Mais Jésus savait d'avance que Pierre le renierait. Il savait d'avance que ses premiers apôtres l'abandonneraient par lâcheté. Il ne les a pas moins consacrés pour autant. Et la veille de sa passion, il a adressé à son Père cette grande prière que l'on appelle précisément la prière sacerdotale de Jésus. Consacre-les dans la vérité. Pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. C'est que nous sommes plongés là dans l'ordre de la grâce qui ne nous semble plus assez familier. C'est l'irruption du surnaturel dans votre histoire, aux prises pourtant avec les contingences et les pesanteurs de votre humanité, ces limites que vous avez appris à connaître et qui exigeront tout au long de votre vie vigilance et combat spirituel. C'est tellement grand qu'il est permis d'en douter. Cela excède tellement les limites de notre nature humaine. Les disciples n'avaient-ils pas pris Jésus ressuscité, leur apparaissant au Cénacle pour un fantôme? Et nous avons entendu dans la première lecture que Pierre, délivré miraculeusement de la prison par l'ange du Seigneur, ne savait pas que tout ce qui est arrivé grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'ils avaient une vision. Oui, Dieu va intervenir aujourd'hui dans la réalité concrète de votre humanité, quelles qu'en soient les faiblesses. Il va vous communiquer le don de son Esprit Saint. Pour être au diapason d'un tel mystère qui vous dépasse, il vous faut, comme les apôtres, dans le récit de la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, être intégré dans l'aparté du Christ avec son Père. Luc indique, quant à lui, que Jésus priait à l'écart, mais que ses disciples étaient là lorsqu'il les interrogeait sur son identité. C'est parce qu'ils sont introduits par vocation dans le cœur à cœur de Jésus, avec son Père, qu'ils peuvent percer dans la foi son mystère et accéder à une connaissance de lui qui dépasse l'opinion que se font les gens. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là est soulignée la place primordiale que la prière devra toujours occuper dans votre avis pour entrer dans cet aparté du Christ avec son Père, où il vous introduit de manière privilégiée. De même, on ne peut pas comprendre ce qu'est la réalité sublime du prêtre si l'on n'est pas introduit de l'intérieur dans le mystère du Christ. Ne nous étonnons donc pas de l'opinion que les gens se font parfois du prêtre, qu'ils voudraient désacraliser. Le plus douloureux, c'est que cette opinion est parfois exprimée au sein même de l'Église, dénonçant ainsi un manque criant d'expérience théologale du Christ et de l'Église, en toile de fond de bien des débats récurrents autour de la figure du prêtre, sur le célibat sacerdotal, l'ordination des femmes, la participation au gouvernement de l'Église, avec la désolante propension à réduire la perspective aux prérequis du monde. Comme l'a rappelé de manière très particulière le Concile Vatican II, les tria munera, c'est-à-dire l'enseignement, la sanctification et le gouvernement, sont unis de manière indissoluble dans la personne du prêtre. Par votre consécration, vous ne deviendrez pas pour autant des super-chrétiens. L'ordination sacerdotale ne confère pas aux prêtres, dans l'ordre de la participation à la grâce du Christ, une dignité supérieure à celle que l'on reçoit par le baptême. Il n'y a pas de plus grande dignité que celle du baptême. Comme l'écrit le père de Lubac, l'institution du sacerdoce et le sacrement de l'ordre ne crée pas à l'intérieur de l'Église deux degrés d'appartenance au Christ et comme deux espèces de chrétiens. Le prêtre n'est pas du fait de son ordination sacerdotale plus chrétien que le simple fidèle. Et en même temps, comme il l'ajoute aussitôt, entre prêtres et laïcs, il y a une différence de situation et de pouvoir irréductible. Le Concile Vatican II évoquera une différence non pas seulement de degré, mais d'essence. En ce sens, le caractère sacerdotal doit être grandement honoré, car Jésus a choisi les prêtres comme ses instruments pour agir sur les âmes et ainsi engendrer et entretenir en eux la vie divine. Mais c'est essentiellement un service, même si c'est le plus haut service. Aussi, malgré les remises en cause diffusées aujourd'hui, qui pourraient bien vous déstabiliser, appuyez-vous avec confiance sur le Seigneur et soyez assurés qu'il vous assistera, comme Paul l'affirme à Timothée dans la deuxième lecture que nous avons entendue. « J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. » Comme le disait si souvent, sous forme d'encouragement, le cardinal Roger Etchegaray, qui nous a quittés l'an dernier. « C'est le beau temps pour être prêtre. » C'est le beau temps pour être prêtre. Le sacerdoce ministériel va encore vous établir dans un lien nouveau avec l'Église. Comme on le voit dans l'Évangile que nous venons d'entendre, en réponse à sa profession de foi, Jésus dit à Pierre, « Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. La comparaison est audacieuse, car dans l'Écriture, c'est Dieu et Dieu seul qui est le rocher d'Israël. Le nom de Pierre est donc particulièrement éloquent. Il dit la grandeur de la mission qui lui est confiée par Jésus. Par le don de Dieu, il est porté bien au-delà de ses limites humaines. Il devient comme vicaire du Christ, ce pêcheur de Galilée, la pierre inébranlable sur laquelle l'Église est appelée à reposer. Pierre l'est à un titre tout particulier, doté par Jésus lui-même d'une primauté que personne dans l'Église primitive ne songera à lui contester, quand bien même ils étaient si prompts avant la Passion à se disputer la préséance. Et alors que son reniement était désormais connu de tous, mais il est manifeste, même si c'est à un degré moindre, que tous les apôtres, et donc aussi leurs successeurs, et donc aussi les prêtres à la manière des apôtres, comme coopérateurs des évêques, sont appelés par Jésus à être les pierres de fondation de l'Église. C'est sur eux, et donc sur vous aussi, que Jésus continuera de manière privilégiée à bâtir son Église. Remarquez bien que Jésus dit « mon Église ». C'est dire l'amour jaloux qu'il nourrit pour elle, précisément comme pour une épouse. Le Christ a tant aimé l'Église, dit saint Paul, qu'il s'est livré pour elle. Et c'est dire aussi combien elle est une. À l'instar de Pierre et des autres apôtres, vous serez appelés en communion avec votre évêque et ses successeurs, dans le respect et l'obéissance, à travailler ardemment à l'unité et à l'indéfectibilité de l'Église, en particulier contre tout ce qui la menace d'écroulement à l'extérieur comme à l'intérieur d'elle-même. Jésus ajoute en effet cette promesse si lourde de conséquences. Les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle, c'est-à-dire les puissances du mal et de la mort qui s'acharneront contre l'Église, comme nous le constatons à toutes les époques et peut-être d'une manière particulièrement violente aujourd'hui, ne pourront rien contre elle, à condition de soigner la communion au sein de l'Église, et en particulier avec Pierre, dont la mission est de dire la foi de l'Église et de la transmettre à tous, jusqu'aux martyrs s'il le faut. Aux portes de l'Hadès, Jésus oppose les clés du royaume des cieux, qu'il confie à Pierre et aux autres apôtres avec le pouvoir de lier et de délier. Cela signifie que votre pouvoir ne sera jamais pour condamner, même s'il faudra parfois lier de manière temporaire, mais toujours pour conduire patiemment les âmes au ciel. Le pouvoir de lier et de délier ne s'entend qu'en vue du ciel, tant la mission de l'Église est bien d'arracher les élus au pouvoir des ténèbres et de la mort. En particulier, je vous recommande d'être, sous l'autorité de l'évêque, des apôtres de la communion au sein du presbytérium. Ne laissez aucun ferment de division s'insérer entre vous. Ne laissez jamais vos opinions personnelles et vos émotions subjectives prévaloir sur la parole objective du Christ, écrite et transmise fidèlement par le magistère de l'Église. Je me réjouis de savoir les belles relations que vous entretenez avec vos aînés dans le sacerdoce. Vous me confiez ce que vous leur devez et les liens d'amitié que vous avez soin de tisser avec eux. Construisez aussi avec les prêtres de votre génération des relations fraternelles fortes pour porter demain ensemble les défis de la mission dans notre diocèse et constituer avec eux un corps sacerdotal uni et fraternel. Le monde a besoin de ce témoignage d'unité. C'est la nature de l'Église, corps et épouse du Christ, temple qu'il reconstruit toujours par la force de sa mort et de sa résurrection, d'être une. Tout notre ministère serait stérilisé par nos divisions. Vous aurez à cœur aujourd'hui de confier votre sacerdoce à la Vierge Marie. Elle est vraiment la mère de l'Église, celle qui rassemble pasteurs et fidèles dans l'unité. En se tenant au milieu de nous, comme en ce temps-là, au milieu des apôtres et des disciples de la première heure, hommes et femmes, elle nous garde dans une prière unanime et nous dispose à accueillir le don de l'Esprit-Saint. Chers frères et sœurs, qui êtes venus participer à cette célébration et entourer François-Régis, Alexandre et Baptiste, prions maintenant avec ferveur pour nos ordinants, comme la première communauté chrétienne de Jérusalem, qui priait Dieu pour Pierre avec insistance. Amen.